Chapitre 1. La famille, entre loyauté et déloyauté. La famille, ce cocon dont on vante les mérites, cette valeur refuge si précieuse aux yeux de la plupart d'entre nous, n'en demeure pas moins le lieu des premières expériences d'injustice, de souffrance. N'en déplaise à celles et ceux qui ont une représentation idéale de la famille, s'il est un lieu où se jouent quotidiennement des trahisons de toutes sortes, c'est bien celui-ci. La famille. Pourquoi est-ce si compliqué? Aborder la famille sous cet angle n'est pas très réjouissant, j'en conviens, mais cela présente un avantage inestimable, celui de nous permettre d'aller plus en profondeur dans ce qui tisse et fonde ce lien tout à fait spécifique. Évoquer les trahisons qui se trament au sein des familles nous réveillera et nous alertera sur les risques et dangers de la vie de famille, de manière à en atténuer les souffrances et les méfaits, quelquefois catastrophiques. Plutôt que de dire une énième fois aux parents ce qu'ils doivent faire et aux enfants comment se comporter, notre axe iconoclaste nous permet de comprendre l'architecture de la relation parent-enfant qui, pour rester invisible, n'en est pas moins déterminante. Il est temps de passer à un autre discours. Tous les pères et les mères de notre époque ont été nourris à la psychologie positive et sont prêts à embrasser toute la bienveillance du monde pour permettre à leur cher, merveilleux et si tyrannique bambin d'être le plus heureux possible. Ils ont entendu des quantités de recommandations, recettes, modes d'emploi, mais voilà, cela ne fonctionne pas aussi bien que promis. Quelque chose coince. Alors, agissons. La famille, lieu de nos premières souffrances. Entrer par la voie de la trahison dans le sacro-saint univers familial ouvre indéniablement de nouvelles perspectives. Nous pourrons mieux apprécier ce qui est bon dans notre histoire familiale, nous protéger et nous libérer de ce qui l'est moins, et surtout apprendre à ne plus nous trahir nous-mêmes. Devenir soi, parent comme enfant, chacun à partir de sa place propre. Avant de nous engager sur ce chemin, nous avons à défricher le terrain et à balayer d'emblée une de nos tenaces et dangereuses illusions. En effet, qui aime bien, trahit bien, pourrions-nous plagier? Il ne suffit pas de s'aimer pour se respecter. L'amour, bien que nécessaire, est loin d'être suffisant pour permettre à un enfant de devenir soi ou pour aider les parents à rester à leur place. C'est toujours animé des plus louables intentions, en voulant sincèrement le bonheur et le bien de leur enfant, que pères et mères, involontairement, inconsciemment, verrouillent plus ou moins durablement son développement. C'est en courant après une indépendance légitime que les enfants trahissent leurs parents. Mères et pères seraient-ils encombrés par leur trop grande volonté de bien faire? Filles et fils par leur trop grand désir de rester de bons enfants? Dans cette relation spécifique entre parents et enfants, qui trahit l'autre? L'ingratitude ressentie par les uns fait-elle écho au manque de reconnaissance dont les autres se plaignent? Qui trahit-on le mieux, si ce ne sont les personnes qui nous sont chères ou l'ont été? Des lignes à haute tension. Bien sûr, il y a des parents plus ou moins structurants, des enfants plus ou moins faciles, des histoires familiales plus ou moins traumatisantes et lourdes. Mais quelle que soit leur forme, traditionnelle, monoparentale, recomposée, adoptive, homoparentale, on retrouve au-delà de leur spécificité des constantes communes, fondatrices de l'essence même du lien intergénérationnel. Élever une fille ou un fils d'un côté et grandir en tant qu'enfant de l'autre mettent en œuvre des processus qui placent les uns et les autres dans des positions opposées, dans des enjeux existentiels différents. Les parents, pour être dans leur rôle, transmettent, sans mesurer tout à fait ce qu'ils transmettent. De leur côté, les enfants transforment ce qui leur a été transmis pour accéder à leur singularité, sans percevoir l'étendue des transformations nécessaires. La dynamique familiale, peut-être devrais-je dire la dynamite familiale, se fonde à partir de véritables lignes de haute tension, des forces antagonistes dans lesquelles s'ordonne la place de chacun, son identité, sa fonction. Par exemple, un enfant, pour se construire, a besoin d'être porté par le désir de ses parents, d'être rêvé par eux. Il va se développer dans le regard que portent sur lui son père, sa mère et tous les autres membres de sa famille. Il aura confiance en lui si ses parents lui renvoient l'image de quelqu'un de solide, d'intéressant, de noble. Mais il a aussi besoin de s'émanciper de ses injonctions familiales pour devenir lui-même. Il lui faudra, pour affirmer sa différence, se révolter, désobéir, ne pas répondre à un certain nombre d'attentes qui pèsent sur lui et l'éloigne de lui-même. Autre ligne de haute tension. Il faut protéger son enfant alors même qu'il a de son côté besoin de se frotter au risque. Il est important de lui transmettre des valeurs, mais il sera amené à les remanier, à les renier, à les transformer. Un parent guide, montre le chemin, mais c'est à l'enfant de trouver sa propre voie. Dans la relation parent-enfant, chacun trouve sa place dans un mouvement contraire à celui de l'autre. C'est au cœur même de ces tensions que le lien se constitue, mais c'est aussi là que les trahisons s'infiltrent. Le lien familial se tisse à la fois à partir d'attachement et de séparation, de présence et de distance, de partage et d'individuation, d'autorité et d'autonomie. Cette dialectique, qui constitue l'essence même du lien familial, interroge sans cesse le « comment ne pas me trahir ?» et bien sûr le « trahir pour ne pas me trahir ». Plus on admettra l'importance de ces questions, plus on se les posera en conscience sans fausse pudibonderie, avec courage et clairvoyance, plus notre famille sera ouverte et souple et permettra à tous de se sentir bien ensemble, mais à une juste distance émotionnelle, identitaire, symbolique. Séparés, mais unis. Différents, mais s'appréciant et s'estimant. Ensemble, mais chaque un. Chacun se construit entre singularité et filiation. Individuation et appartenance. On est enfant, mais il s'agit ensuite de devenir sujet. Être soi dans le « nous » familial demande à la fois que l'on reconnaisse d'où l'on vient et que l'on ose s'en séparer. Ne pas se trahir, c'est affirmer sa singularité, parvenir à s'individuer dans un système familial qui peut se sentir menacé dans sa cohésion par l'expression de trop de différences. Comme un arbre, chaque individu a besoin de ses racines, mais il a aussi besoin de son propre oxygène. Il devra se faire sa propre place au soleil. Il sera amené à se greffer à d'autres plantes. Ses feuilles, ses fruits, ses fleurs ne seront jamais tout à fait les mêmes que ceux des autres arbres alentour. Aucun végétal n'est strictement identique aux autres. C'est ce qui fait le charme d'une forêt, la richesse de la nature. Ils poussent sur une même terre, mais ont tous des aspects spécifiques. Il en est ainsi d'une famille. On a beau avoir la même origine, traverser les mêmes bonheurs et épreuves, nul ne les vivra de la même manière. Un même terreau, des pousses uniques. C'est la biodiversité qui assure la bonne santé d'une forêt. Il en est de même pour une famille. Elle sera d'autant plus épanouissante qu'elle saura accueillir la différence de chacun et s'en réjouir. Mais encore faut-il oser la mettre en œuvre. La vie nous est donnée, mais nous sommes les artisans de notre propre existence. Ne pas se trahir, c'est aller vers soi souvent, à l'encontre de la parole et des désirs parentaux. Car en tant qu'être humain, nous ne nous contentons pas de pousser comme un arbre, nous avons à grandir, c'est-à-dire à nous rapprocher de ce que nous avons envie d'être, devenir ce à quoi nous voulons ressembler. Cette aspiration du sujet moderne signe sa liberté. Comment nous en donner les moyens?